en camion. Bref, c'est important d'adapter sa conduite.
Effectivement, Madame Levac. C'est pourquoi je ralentis, je reste attentive et j'évite les distractions telles que le téléphone cellulaire ou l'écran tactile de mon véhicule.
Wow, réponse parfaite. Avec un Madame Levac en plus, coudon, avez-vous des défauts, vous?
Il m'arrive d'oublier les noms, Madame Lévesque.
Ah, pas grave. Vous protégez les usagers vulnérables dans les milieux de vie.
Merci, Madame Laflac.
Ah, ben oui, toi, c'est étonnant. La sécurité routière, j'embarque. Un message du gouvernement du Québec.
On écrase les prix chez Maxi, avec des milliers de baisses de prix, dont les poitrines de poulet format club à 4,99 $ la livre, 11 $ le kilo. Et les raisins verts ou rouges sans pépins à 1,37 $ la livre, 3,02 $ le kilo. Pas de circulaire par la poste? Pas de problème. Plus de rabais en ligne et chez Maxi.
Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la méga liquidation automne-hiver. Profitez de 30 à 50 % de rabais sur une grande sélection de vêtements et chaussures pour toute la famille. Détails en magasin. Sport Expert ici.
Avec le groupe Nano, qu'acceptez votre soumission de Bardo en 10 jours et vous pourrez bénéficier de notre rabais éclair allant de 250 à 1050 $. Ou prévoyez de changer votre revêtement extérieur pour le printemps prochain et profitez du Renault rabais extérieur allant de 200 à 1500 $. Appelez-nous pour plus de détails au 581-985-6949. Visitez le nanook.ca, N-A-N-U-U-Q.ca. Certaines conditions s'appliquent.
Qu'est-ce qui se passe ici? Il fait quoi par terre, lui?
Ben, boss, je viens de dire que les camions Ram 2026 ont une garantie limitée de 10 ans ou 160 000 km.
Ben là, y a-tu dit de s'asseoir au moins?
Ouais, j'y ai pas pensé, boss.
T'annonces pas des affaires big de même sans préparer le monde?
Êtes-vous bien assis? Les camions Ram 2026 sont couverts par la meilleure garantie limitée au pays sur le groupe motopropulseur pour camions pleine grandeur. Jusqu'à 10 ans ou 160 000 km. Une autre preuve de l'engagement Ram envers la fiabilité à long terme. Certaines conditions s'appliquent, VAB exclu. Détails chez votre concessionnaire.
Choix.
Choix.
98.
98.
1. Choix.
Choix.
Radio X. À Québec.
Québec.
C'est Radio X.
Choix. Radio X.
Faites-vous,
faites-vous
votre propre opinion.
Oh my gosh! They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X Files
avec Christian Page.
Oh my gosh!
Radio X.
Il y a quelque chose de très sombre chez toi, Eddie Kin.
Seule une mère peut t'aimer.
J'ai l'impression d'être un puzzle. Aucune des pièces ne s'emboîte. Tu n'as qu'à détourner le regard.
Bienvenue dans les Radio X-Files en ce vendredi d'octobre. Christian Page, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre en introduction d'émission ce soir?
On vient d'entendre la bande-annonce que j'ai écourtée de la série. En fait, c'est le troisième chapitre, si je puis dire, de la série Monstre. Le premier volet était consacré à Jeffrey Dahmer, le boucher de Milwaukee. Le deuxième était consacré au frère Menendez. Et le troisième est consacré à Ed Gein. Donc, c'est ce qu'on vient d'entendre. Donc, cette bande-annonce de la série Ed Gein, c'est une série en 8 épisodes de mémoire. Et comme j'ai animé pendant plus d'un an maintenant les Suspects X sur les ondes de Radio X-Files, et comme évidemment Ed Gein est un peu aussi un personnage qui a été récupéré dans le cinéma d'horreur et même un peu dans la science-fiction et le fantastique, notamment il a servi de personnage, il est l'inspiration derrière le film Psycho, le roman d'abord, et le film Psycho ensuite sorti en 1960, là, adapté au cinéma par Alfred Hitchcock. Et ensuite, il est aussi le personnage qui a inspiré dans le personnage de Leatherface dans les films Massacre à la tronçonneuse, et également le personnage de Buffalo Bill dans le film, le premier volet du Silence des agneaux. Donc, je me suis dit, bon, j'ai regardé la série, donc je vais quand même, et les gens me demandaient, vous en pensez quoi, ben, je vais quand même faire mon petit commentaire. Puis en même temps, ben, ça permet d'entrer avec l'émission
ça met la
sur
table.
Un autre... Ça met la table pour parler de notre premier sujet de la soirée, qui est lui aussi un autre tueur en série. Il y a quelques jours, le Journal de Montréal a publié un article. J'ignore si ce même article a été repris dans le Journal de Québec. Mais l'article disait, ici, Jack l'Éventreur avait étudié à Montréal, et on faisait référence à ce moment-là à un personnage qui s'appelle Thomas Neal Cream, un médecin qui a fait effectivement, qui est né en fait en Écosse. Les parents ont immigré au Canada. Il a fait ses études à l'Université McGill en médecine. Et éventuellement, donc, ce personnage-là, il a eu un parcours très chaotique. Et il a voyagé beaucoup. Du Canada, il est allé aux États-Unis. Il a commis des crimes aux États-Unis. Il a été arrêté, condamné à la prison aux États-Unis. Et puis ensuite, libéré, il a gagné Londres, où il a commis de nouveaux assassinats. Il a été arrêté. Et au moment de son exécution, on est en 1892 à ce moment-là, à l'automne 1892, au moment où on ouvre la trappe pour le balancer dans le vide, il aurait dit au bourreau « Je suis Jack ». Et laissant supposer qu'il était peut-être Jack l'Éventreur, parce que bon... Pour replacer un peu le contexte historique, évidemment, dès qu'on parle de Jack l'Éventreur, il y a toujours une espèce de... C'est un peu aussi le buzz que fait cet article paru il y a quelques jours. Hein. Dès qu'on évoque le nom de Jack l'Éventreur, on est sûr qu'on va susciter énormément d'intérêt. L'Éventreur, ceux qui se joignent à nous, ils ne connaissent pas très bien l'histoire du crime. Jack l'Éventreur, même s'il est devenu un personnage de cinéma, un personnage de littérature, un peu comme Dracula ou Frankenstein. Jack l'Éventreur, lui, était bel et bien réel. Frankenstein aussi, mais c'était le baron Frankenstein n'a rien à voir avec le personnage de fiction. Hein. En fait, c'était plutôt son alchimiste, un dénommé Dippel, qui faisait des expériences un peu étranges et qui a inspiré le personnage dont Mary Shelley a donné vie dans le roman de Frankenstein. Et Dracula, bon, c'est un prince de Roumanie qui était excessivement cruel, mais rien à voir avec le vampire de la littérature, le publié dans le roman Dracula de Bram Stoker en 1897, où là, on est vraiment dans la fiction. Mais dans le cas de Jack l'Éventreur, là, disons qu'on a un pied plus engagé dans la réalité. Les crimes de l'Éventreur, je vais pas trop m'étirer là-dessus parce que j'ai déjà beaucoup parlé de Jack l'Éventreur. Les gens qui nous écoutent savent que j'ai une véritable passion pour l'Éventreur. J'ai d'ailleurs chez moi des artefacts qui sont liés directement à l'Éventreur.
Hein. Ah oui?
L'Éventreur, on lui prête 5 assassinats. Hein. Ces assassinats vont débuter le premier crime. Quand je dis 5 assassinats, entendons-nous ici, là, pour utiliser l'expression consacrée, c'est 5 assassinats canoniques. C'est-à-dire que c'est 5 crimes qui ont été commis et pour lesquels on est certain que l'assassin était Jack l'Éventreur.
OK, il y a une signature particulière.
Voilà, il y a une signature particulière. Mais il existe un débat, et un débat qui est tout à fait fondé. Il y a peut-être une victime précédente, là, une femme qui a été assassinée là, avant la séquence de l'Éventreur. Il y a une femme qui a été assassinée quelques semaines plus tôt, et certains croient que cette femme aurait pu être un coup d'essai de l'Éventreur. Et ensuite, il y a eu 2 ou 3 autres victimes après la période, disons, canonique de l'Éventreur, que certains ont voulu attribuer à l'Éventreur. Mais là, dans ces crimes-là, post-Jack l'Éventreur, c'est plus incertain. Mais néanmoins, une chose est sûre, le premier crime de l'Éventreur officiellement dans les crimes canoniques, c'est le 31 août 1888. Et il va commettre son dernier crime dans la nuit du 8 au 9 novembre 1888. Et à ce moment-là, ça va être la 5e victime. Et avec cette 5e victime, Jack l'Éventreur techniquement disparaît. Donc on n'entendra plus jamais parler de lui, il ne commettra pas d'autres crimes. On est toujours en 1888, donc tu comprendras qu'aujourd'hui, on est quoi, 140 ans plus tard, et on est toujours à se questionner qui était ce mystérieux individu qui était Jack l'Éventreur. Et moi, dans les items que j'ai chez moi, à un moment donné, dans une vente aux enchères, j'ai acheté le sifflet du policier de la troisième victime de l'éventreur. Donc, la troisième victime, dans la nuit du 30 septembre, l'éventreur va tuer deux femmes. Et une certaine Elizabeth Stride et une autre qui s'appelle Catherine Eddowes. Et dans le cas de Catherine Eddowes, lorsque son corps est retrouvé, là, il est à peu près 1h30 du matin, le policier, un dénommé Watkins, qui va arriver sur Mitre Square, ben, en voyant la victime, mais on peut quand même se mettre un peu dans le contexte. Hein, c'est le Londres du 19e siècle, le Londres victorien. Donc, on peut déjà entendre un peu les chevaux, hein, les carrioles et les fiacres qui roulent dans les rues, là. Donc, les policiers arrivent sur place. Ils voient, évidemment, les policiers ont des lanternes dans les mains. Hein, ils font des rondes. Et lorsqu'ils trouvent le corps de Catherine Eddowes, il sort son sifflet, là, les fameux sifflets de Scotland Yard. Oui. Et là, il siffle. Et donc, il attire les autres policiers qui font des rondes sur les rues voisines. Et là, bientôt, tout Mitre Square est entouré de policiers. Mais éventuellement, là, il y a quelques années, dans une vente aux enchères, on a mis en vente le sifflet de P.C. Watkins avec son numéro matricule sur le sifflet, tout ça. Et j'ai acheté le sifflet. Ça m'a coûté une véritable fortune. Il est dans ma collection. Et aussi, il y a quelques années, Scotland Yard avait, pour souligner le 100e anniversaire, évidemment, c'est un triste anniversaire. On n'est pas là pour fêter la mort de femmes, là, de prostituées. Mais lors du 100e anniversaire de Jack l'Éventreur, Scotland Yard, on fait une espèce de sérigraphie numérotée de la. Parce que le nom de Jack l'Éventreur nous vient d'une lettre. Hein, une lettre qui est arrivée à la poste centrale de Londres le 27 septembre 1888. Et cette lettre, avec une belle écriture, là, manuscrite, l'auteur de cette lettre disait « Bon, j'ai entendu que la police était à ma recherche. » À ce moment-là, l'éventreur avait commis deux crimes. Alors, l'auteur de la lettre dit « J'ai appris que la police était sur mes traces. Je me suis bien amusé à découper ces femmes. La prochaine fois, j'enverrai les oreilles. » Et là, il dit « Mon couteau est affûté. J'ai hâte de me remettre à l'œuvre. » Et il termine sa lettre en disant « Puisque la police aime me donner des sobriquets, parce que la police avait, comme on ne savait pas qui était l'assassin, la police avait lancé un peu comme l'idée en l'air en se disant « Pourquoi cet homme qui assassine des femmes, c'est véritablement une débauche sanglante. Là. Les femmes sont dépecées. » Il dit « Comment ça se fait que cet individu peut circuler dans les rues des quartiers défavorisés de Londres? » On est dans les quartiers de Whitechapel et Spitalfield, qui sont des quartiers très grouillants de gens, très, très animés. Comment cet homme-là peut-il passer inaperçu alors que ses vêtements doivent être ensanglantés? Et un des policiers de Scotland Yard avait dit « Peut-être dans ces mêmes quartiers défavorisés de Londres, c'est également là que se trouvaient les abattoirs. » Et on s'est dit, peut-être qu'on n'y fait pas attention parce que dans ces petites heures du matin, 4-5 heures du matin, il y a plein de bouchers ou de gens qui travaillent dans les abattoirs qui se rendent au travail. Ils ont des tabliers en cuir, des couteaux tout le tour de la taille qu'ils utilisent dans leur travail et personne ne fait attention à eux. Alors, si un homme se déambule sur la rue à 4 heures du matin avec un tablier ensanglanté, des couteaux autour de lui dans une ceinture, personne ne va faire de cas comme... de ça. Et on va normal, dire, c'est normal, il s'en va travailler aux abattoirs.
Voilà. Okay.
Et la police donc avait lancé comme ça, on cherchait un assassin, puis on l'avait surnommé Tablier de cuir. Et c'est là donc, quand, dans cette lettre, l'auteur dit « Puisque la police aime me donner des sobriquets », là d'ailleurs il ajoute « Cette idée de tablier de cuir m'a bien fait rire ». Et là il ajoute et dit « Puisque vous aimez les sobriquets, en voici un pour vous ». Et c'est signé « Sincèrement vôtre ». Jack l'Éventreur. C'est lui, c'est l'auteur de cette lettre-là qui donne le nom. Évidemment, on attribue souvent, on va attribuer à ce moment-là la lettre à l'assassin, mais on sait aujourd'hui que c'est un journaliste qui a inventé ça. C'est un canular. La lettre est un canular. Mais néanmoins, c'est un canular qui a bien fonctionné puisque le nom est passé à l'histoire. Donc, aujourd'hui, quand on parle de cet assassin, c'est toujours Jack l'Éventreur, puis toujours aussi la signature « Sincèrement vôtre, Jack the Ripper ». Mais c'est une invention d'un journaliste. Là, ça. La lettre n'a jamais été écrite par le véritable assassin de Whitechapel. En fait, la seule lettre que l'assassin a probablement écrite, c'est curieusement une lettre qui n'est pas signée Jack l'Éventreur. Hein, parce que durant cette période, l'automne 1888, la police va recevoir à peu près 300 lettres de gens qui signent tous Jack l'Éventreur. Okay, toutes les lettres sont écrites différemment.
Une folie là, qui vient.
Il y a une espèce de folie, une mode. On s'est dit, hey, c'est le fun, on envoie des lettres, puis les journaux en parlent. Bon, la police va recevoir à peu près, Scotland Yard va recevoir à peu près 300 lettres, sont toutes signées Jack l'Éventreur. Sauf une. Et elle n'est pas adressée à la police ni aux journaux. Cette lettre-là, elle est envoyée là, après le double meurtre, là, le meurtre du 30 septembre, la nuit du doublé, comme on l'appelle, où il a assassiné Elizabeth Strait et Catherine Ledoux. Il y a un comité de vigilance qui va se former dans les rues des quartiers défavorisés. Et un des hommes qui est à la tête de ces comités de vigilance, un certain George Lusk, qui profite un peu de l'occasion pour se faire du capital politique en disant « Oui, parce que c'est des quartiers pauvres ici, puis que ce sont les victimes sont des pauvres femmes désœuvrées, mais si ces mêmes crimes avaient été commis dans les quartiers huppés de Belgravia, de Mayfair ou de Lambeth, l'assassin aurait depuis longtemps été arrêté. » Et ce type, George Lusk, donc, dit « Moi, je vais former un comité. » Donc, il réunit autour de lui des hommes armés de gourdins, on se promène les nuits dans les rues de Londres, dans les rues des quartiers de Whitechapel, de Spitalfield, dans l'espoir de trouver un individu là, qui a aux allures louches sur lequel on pourrait tomber et procéder à son arrestation. Et il profite donc de ça pour dire, déclarer à la presse, nous, on va faire le travail que la police n'est pas capable de faire et nous, on va l'arrêter, Jack l'Éventreur. Et le 16 octobre, donc à peu près deux semaines après la nuit du doublé, ce fameux George Lusk reçoit une petite boîte chez lui. Elle est enveloppée de papier qui est taché de sang. Il ouvre la boîte. Petite boîte en carton. À l'intérieur, il y a un morceau de chair visqueuse et une lettre d'accompagnement. Et la lettre, elle est très, très mal écrite. Hein. Elle est même difficilement lisible, visiblement écrite par quelqu'un qui est très peu éduqué, presque analphabète, et avec de très fortes erreurs d'orthographe et même une prononciation étrangère. Hein. On voit des mots simples qui sont écrits tels qu'on... Tu sais, comme par exemple, si je te demandais, si toi, tu connais pas du tout l'anglais, puis je te dis, écris-moi « knife ». Un couteau knife.
Faut l'écrire N-I-F-E, mettons.
Vas... Ouais, ou K-N-I-F, oui. Ou quelque chose comme ça. Oui. C'est bon. Tu vas aller vers la prononciation du mot. Donc, la lettre en question, qui accompagne ce petit morceau de chair visqueux, c'est une lettre qui est pleine de fautes d'orthographe et d'une écriture qui est une écriture qui est davantage basée sur la prononciation plutôt que sur l'orthographe. Et la lettre dit à peu près, elle commence par « de l'enfer ». Et là, ensuite, ça dit « Cher Monsieur Lusk », parce qu'elle est adressée à Monsieur Lusk, elle dit « Cher Monsieur Lusk, vous trouverez ci-joint la moitié d'un rein que j'ai prélevé sur ma dernière victime. L'autre moitié, je l'ai fait frire et je l'ai mangé. C'était délicieux. Si vous êtes patient, peut-être vous enverrai-je le couteau avec lequel je l'ai découpé. Et c'est simplement signé « Attrapez-moi si vous le pouvez ». L'auteur de cette lettre-là ne signe pas Jack l'Éventreur. Il signe simplement « Attrapez-moi si vous le pouvez ». Donc, c'est un peu comme s'il voulait se dissocier de toute cette folie à la Jack l'Éventreur. Il n'a pas besoin de cette folie-là. Il sait à qui il s'adresse et il sait que George Lusk sait de qui il parle. Il parle de celui qu'il promet d'arrêter. Hein? Ouais. Attrapez-moi si vous le pouvez. Et ensuite de ça, bon, éventuellement, le rein sera envoyé à l'hôpital de Londres et on va déterminer que c'est un rein humain, la moitié d'un rein humain, et que le rein en question, les chairs, souffrent d'une maladie qu'on appelle la maladie de Bright, qui est souvent associée à l'alcool. Et la deuxième victime de l'Éventreur, celle dont j'ai acheté le sifflet du policier qui l'a trouvé, donc Catherine Eddowes, était une femme dans la quarantaine qui était alcoolique et qui souffrait de la maladie de Bright et sur lequel l'assassin a effectivement retiré un rein qu'il a gardé comme trophée. Donc tout ça semble correspondre. Est-ce que c'était vraiment le rein de Catherine Eddowes? Est-ce que la lettre était signée vraiment de l'assassin de Whitechapel? C'est impossible de le savoir. On est en 1888, la médecine légale n'est pas ce qu'elle était aujourd'hui, puis tu comprends bien que ça, on n'a pas conservé tout ça. Mais pour le centième anniversaire de l'Éventreur, la fameuse lettre dans laquelle on signait, l'auteur disait voici un pseudonyme et c'est signé sincèrement vôtre, Jack l'Éventreur. Cette lettre-là est devenue célèbre, même plus célèbre que celle avec le morceau de rein. Et pour le centième anniversaire de l'Éventreur, donc en 1988, Scotland Yard a fait une sérigraphie en 500 copies de la fameuse lettre en question, encadrée avec un certificat d'authenticité qui coûtait une véritable fortune. Ben, j'en ai une. J'ai l'une de ces lettres sur le palier de mon escalier qui amène au sous-sol. C'est la première chose que tu vois en rentrant dans mon musée, la fameuse lettre de Jack l'Éventreur. Donc, c'est vrai, j'ai une passion pour l'Éventreur.
Oui.
Et donc, évidemment, je comprends que les gens, en début de semaine, quand ils ont vu cet article, est-ce que Thomas Neal Cream pouvait être l'Éventreur? Ben, ça a été la réaction de m'écrire. Donc, comme je le mentionnais, l'Éventreur va commettre ses 5 crimes à l'automne de 1888. Les victimes de l'Éventreur, on dit souvent, il faut quand même le préciser, ce sont toutes des prostituées, mais entendons-nous, les prostituées du East London, hein, les fameux quartiers désœuvrés où les crimes sont commis, sont pas tout à fait les mêmes prostituées qu'on trouve de l'autre côté de la ville, hein. Je pourrais davantage les qualifier de clochardes plutôt que de prostituées, hein. Ce sont des femmes désœuvrées, ce sont des femmes alcooliques, des sans-abri, et qui se prostituent parce qu'à l'époque, on a des espèces de dortoirs civils où pour quelques pence, on peut se payer un lit. Puis si t'en as assez, ben, tu peux partager un lit avec deux ou trois personnes, hein. Donc, si t'as besoin des 5 pence, chacune non seulement qu'un pence, ben, si 5 personnes donnent 1 pence, ben, ils ont le droit à un lit. Ils peuvent dormir à 5 dans le même lit. Donc, tu vois un peu, genre, c'est des lits, évidemment, ouais, qui grouillent de cafards. Ouais. C'est ça, qui grouille de cafards malpropres dans des conditions là, insalubres. Et les victimes de l'Éventreur, ce sont ce type de femmes. Donc, des sans-abri qui, à la fermeture des bars à 1h du matin, ont tout bu. Hein, elles se sont prostituées un peu dans la soirée. Les quelques pence qu'elles ont gagnées, les ont probablement dépensées à boire. Et quand les bars ferment à 1h du matin, parce que oui, les bars ferment à 1h du matin à Londres, ces femmes se retrouvent à la rue sans place pour aller dormir, et probablement ce qui fait d'eux des victimes excessivement vulnérables, parce qu'elles sont prêtes à faire n'importe quoi pour quelques pence qui leur permettraient de s'acheter ou de se payer un lit. Donc, le premier homme qu'elles rencontrent dans la rue, qui leur offre une petite passe rapide derrière un édifice, elles acceptent. Et avec, ouais, elles acceptent avec l'idée qu'elles vont pouvoir se payer un lit. Elles ne finiront pas la nuit à dormir sur le trottoir. Puis quand je dis dormir sur le trottoir, faut faire attention parce que à Londres, à l'époque, il y a un règlement qui interdit de dormir étendu sur la voie publique. Hein. Le mot étendu est très important ici. Interdit de s'étendre sur la voie publique. Donc, ce que l'on faisait, comme les maisons étaient très, très rapprochées dans le East London, puis c'est encore vrai aujourd'hui dans le centre de Londres, les gens tendaient des cordes d'un mur à un autre, une espèce de corde à linge. Ils étendaient une corde et ils s'accrochaient sur la corde pour dormir accrochés, okay, sur la corde.
Pour pas être
étendu sur la voie publique. Donc, tu connais l'expression « j'ai passé la nuit sur la corde », ça vient de là. Donc, les gens s'accrochaient littéralement sur la corde et de cette manière-là, n'étaient pas arrêtés par les policiers qui faisaient leur ronde puisqu'elles n'étaient pas étendues sur la voie publique. Donc, plutôt que de passer la nuit sur la corde, ces femmes acceptaient de se prostituer, une petite passe rapide derrière un édifice. Et donc, elles ont croisé malheureusement la route de ce mécréant qui était l'Éventreur et qui les a entraînés dans un petit coin sombre et les a littéralement dépecés. Donc, ces crimes commencent le 31 août 1888, se terminent au début novembre 1888, après quoi l'Éventreur disparaît. On n'a aucune idée de qui il était. Toutes les hypothèses, au moment où on se parle, on a plus de pratiquement 200 suspects. Puis même, je dis 200, là, si on ratisse large, là, c'est pratiquement 300 suspects que l'on a, des noms qui ont été évoqués. Ah, lui, peut-être qu'il était Jack l'Éventreur, peut-être lui. Puis des noms tout à fait ridicules, hein. Le petit-fils de la reine Victoria, une triade maçonnique. On a même Lewis Carroll, hein, l'auteur de Alice au Pays des Merveilles, que certains ont pointé du doigt comme étant peut-être Jack l'Éventreur. Donc, ça te montre à quel point on ratisse large. Et bien sûr, dans ces suspects apparaît quelque part ce fameux Thomas Neal Cream, dont on a fait cet article il y a quelques jours dans le Journal de Montréal. Thomas Neal Cream, comme je l'ai mentionné, c'est un personnage très, très louche. Là. Il est né, comme je l'ai mentionné, en Écosse. Ses parents ont immigré au Canada. Il a fait ses études à l'Université McGill. C'est un individu qui était tout à fait amoral. Donc, éventuellement, pour faire une histoire courte, il s'est retrouvé du côté des États-Unis. Ben, d'abord, il s'est retrouvé à London, mais London, Ontario, où il s'est adonné à des avortements. Il faut comprendre qu'au 19e siècle, c'est interdit, les avortements. Mmh. Et éventuellement, quand son nom est arrivé, ben, et qu'il a senti la soupe chaude, il est passé du côté des États-Unis. On le retrouve là, un peu plus tard en Illinois, dans la région de Chicago, où là, il va encore une fois faire commerce d'avortement. Et éventuellement, il va développer une liaison avec une femme de mœurs légères. Et il va réussir à la convaincre, hein, lui, pour plusieurs raisons. Ben, il y a une question d'assurance, hein, de toucher l'assurance. Il réussit à convaincre cette femme-là, qui est un peu amoureuse de lui, d'assassiner son époux. Il dit, bon, ben, si ton époux disparaît, on pourra vivre une belle vie ensemble. Mais en même temps aussi, il garde en tête qu'il y a une espèce d'assurance qu'il pourra collecter. C'est vraiment un individu très calculateur, oui. Ce Thomas Neal Cream. Donc, il va donner du poison, de la strychnine, qu'il va donner à cette dame-là, qui va finalement empoisonner son mari. Le mari mort, éventuellement, il y a une enquête de police. Le médecin légiste découvre que l'homme a été empoisonné. Et lorsqu'il découvre qu'il a été empoisonné, ben, la femme et l'épouse est suspectée, poursuivie. Elle avoue avoir donné le poison, mais que ce poison-là lui a été fourni par Thomas Neal Cream. Cream est arrêté à son tour. Il y a un procès et il est condamné à la prison, une lourde peine, mais une lourde peine qui finalement n'a pas été si longue que ça, ça a été quelques années, et il retrouve sa liberté en 1891. En 1891, au moment où il retrouve sa liberté, il prend un bateau et va se rendre en Angleterre, et là, il se retrouve dans le quartier de Lambeth, quartier assez favorisé de Londres, et là, dans le quartier de Lambeth, peu à peu, il y a assez rapidement, en quelques semaines, plusieurs prostituées vont trouver la mort, empoisonnées à la strychnine. Et alors que les prostituées sont empoisonnées à la strychnine, il y a un individu qui envoie des lettres à la police. Il les signe de différents noms et il semble vouloir aiguiller la police vers différents suspects. C'est peut-être un tel, c'est peut-être un tel, c'est peut-être un tel. Et éventuellement, l'une de ces prostituées qui va se faire... Là, évidemment, il y a une alerte. Hein? Les policiers disent attention, des prostituées, des femmes de mœurs légères ont été retrouvées, assassinées à la strychnine. Si un inconnu vous donne des substances à consommer, surveillez vos verres quand vous allez dans des bars. On dit ouais, encore ça aux oui. femmes dans ouais. les bars. Hein? Et on dit également, si on vous offre des pilules ou quoi que ce soit, vous ne connaissez pas la provenance, évitez de les prendre. Et à un moment donné, donc, une de ces femmes, une prostituée, va raconter qu'elle est dans un bar et elle se fait approcher par un homme qui se présente comme étant un médecin travaillant dans un hôpital local. Il lui va lui remettre des capsules et il va quitter. Au moment où elle se prépare à prendre les capsules, parce qu'elle a une espèce de toux, évidemment, lui, il s'est dit, je suis médecin, vous avez une toux, j'ai ce qu'il me faut dans ma poche, puis il lui donne des capsules. Mais au moment où elle se prépare à prendre les dites capsules en question, elle a un moment d'hésitation et elle ne les prend pas. Elle les garde. Et éventuellement, elle va confier ça à la police. Et effectivement, quel coup de chance, ces pilules étaient de la strychnine. Si elle les avait prises, elle serait décédée. Et tout ça leur permet d'aiguiller les services de police vers ce Thomas Neal Cream, qui est médecin. Il ne pratique pas, mais il est à Lambeth. Et là, la police vont l'arrêter. Donc déjà là, ici, là, on voit qu'on n'est pas du tout dans le même modus operandi. Rien de ça. D'abord, Thomas Neal Cream ne tue pas les femmes avec un couteau comme le fait Jack l'Éventreur. Et ça, dans la psychologie criminelle, c'est très important. Les crimes de l'Éventreur allaient crescendo. Hein. Sa première victime, une certaine Mary Ann Nichols, qu'il a assassinée dans la nuit du 31 août 1888, cette victime a été poignardé, éventré, mais il n'a pas ouvert le corps pour sortir les organes. Il a planté des coups de couteau dans le ventre, puis bon, il a cisaillé un peu, puis ça s'est arrêté là. Mais sa dernière victime, la cinquième victime, celle qu'il assassine en novembre, une jeune prostituée de 25 ans, la seule d'ailleurs qui avait un appartement parmi les victimes de l'Éventreur, une certaine Mary Jane Kelly, il l'a littéralement dépecé, là, il l'a coupé en morceaux. Là, il l'a dépecé. Je n'entrerai pas dans les détails, mais il l'a dépecé. Les crimes allaient crescendo dans le cas de l'Éventreur. Et le dernier crime de l'Éventreur nous montre un individu qui est complètement fou, là. Il est complètement déraillé. Donc, dans les cas des crimes de Thomas Neal Cream, non seulement les victimes, même si ce sont des prostituées, c'est pas des clochardes comme les victimes de l'Éventreur, ces victimes ne sont pas assassinées avec un couteau ou dépecées. Elles sont empoisonnées, donc une approche qui est tout à fait différente. Et dans la psychologie criminelle, un empoisonneur n'a pas les mêmes fantasmes que l'Éventreur. L'Éventreur, lui, chaque coup de couteau qu'il donne est un substitut à une pénétration là, sexuelle, alors que l'empoisonneur, lui, vit son crime par procuration, par son imaginaire. Il est ailleurs et il s'imagine les souffrances qu'il vient d'occasionner à sa victime qui est empoisonnée quelque part dans quelques rues plus loin. Donc, on n'est pas du tout dans la même psychologie. Et ensuite, on n'est pas dans le même quartier. L'éventreur a tous, commis tous ses crimes dans les quartiers très, très pauvres du East London. Pour les experts en criminalistique ou en psychologie criminelle, sont tous unanimes à dire que l'éventreur appartenait à cette communauté-là. Hein, il connaissait les gens, il connaissait les rues, il vivait là. Hein. Si on cherche l'identité de Jack l'éventreur, il faut commencer par la population, les habitants du East London. Jack l'éventreur était l'un d'eux. Alors que les crimes de Thomas Nickcream ont tous été commis dans le quartier de Lambeth, de l'autre côté de la ville, un quartier très favorisé où on retrouve des gens riches et très, 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 très aisés. Donc, on n'est pas du tout dans la même chose. Et finalement, le dernier argument, c'est que Thomas Nickcream, en 1888, alors que Jack l'Éventreur commettait ses crimes à Londres, Thomas Nickcream était dans une prison à Joliet, en Illinois, où il croupissait pour le crime de l'empoisonnement du mari de son ex-maîtresse. Donc, il ne pouvait pas être à Londres en même temps, il était en prison. Et ceux qui ont voulu faire de Thomas Nickcream l'assassin, l'associé à Jack l'Éventreur, ont évoqué la possibilité que peut-être Thomas Nickcream aurait payé des gardiens de la prison pour modifier les livres d'écrou et qu'il aurait été libéré, parce qu'il a été libéré en juillet 1891. Donc, on aurait falsifié les livres d'écrou pour le libérer avant. Mais officiellement, selon les livres d'écrou, il aurait été libéré en juillet 1891. Mais officieusement, il aurait pu être libéré des mois, sinon quelques années avant. Mais c'est pas vraisemblable, ça. Non seulement c'est pas vraisemblable, parce que les crimes de l'éventreur, c'est quand même 3 ans plus tôt. Fait qu'on veut bien croire qu'il aurait pu s'acheter une liberté quelques mois plus tôt, mais 3 ans plus tôt, c'est pas vraisemblable. Et qui plus est, des recherches d'archives montre des correspondances entre différentes personnes et qui parlent de Thomas Nickcream. Des lettres, par exemple, entre lui et son avocat. Hein, il demande, par exemple, une révision de procès. Il va également écrire une lettre. Bon, sa belle-sœur va écrire une lettre à propos où elle parle de lui. Et ces lettres-là mentionne chaque fois qu'il est détenu en prison à ce moment-là. Donc, la lettre de son avocat, au début de 1891, il mentionne, j'ai vérifié pour l'héritage de la famille, parce que le père de Thomas Nickcream était décédé. Cream, qui était derrière les barreaux, voulait une part de son héritage. Et son avocat écrit, par exemple, à la maison de courtage, en disant, j'ai vérifié avec mon client, mais qui est toujours en prison en date d'aujourd'hui. Et la date d'aujourd'hui, c'est le 3 mars 1891. Donc, cette lettre-là montre bien que Cream est toujours en prison en 1891. Sa belle-sœur écrit à quelqu'un d'autre et elle dit, dans la lettre, une phrase qui dit « Ce n'est que j'ai entendu parler de toute cette histoire que depuis la libération de mon beau-frère, c'était-je de mémoire le 25 juillet dernier ». Et le 25 juillet dernier, c'était le 25 juillet 1891. Donc, on a 2 lettres qui montrent très clairement que Thomas Nickcream est demeuré incarcéré à la prison de Joliet jusqu'en 1891. Il n'y a aucune possibilité que Thomas Nickcream ait pu être à Londres en 1888 pour découper et dépecer des femmes dans le East London.
C'est impossible.
Impossible. Quant à l'histoire de au moment où le bourreau ouvre la trappe et que Thomas Nickcream dit « j'étais Jack », il n'a pas le temps de finir. Non, là, apparemment, la corde lui a brisé le cou. Ce n'est qu'une rumeur. Il n'existe aucune information. Tu sais, le bourreau, là, il n'a pas écrit ça. « Hey, Thomas Nickcream m'a confié. » C'est des années après que la rumeur a circulé qu'au moment où Thomas Nickcream a été exécuté, il aurait dit ça au bourreau. Mais on n'a pas la preuve de ça. Je pense que le seul lien qu'on peut faire entre Thomas Nickcream et Jack l'Éventreur, mis à part le fait que les deux assassinaient des femmes de mœurs légères, disons ça comme ça, c'est que Thomas Nickcream s'habillait de noir avec un chapeau haute forme, puis qui était médecin, avec le petit sac de médecin, là, et que dans nos fantasmes, je le dis bien, dans nos fantasmes, ouais, on aime bien imaginer Jack l'Éventreur habillé avec un manteau houppelande noir, avec un chapeau de forme puis un petit sac de docteur entre les mains. Hein? Ça, c'est l'image qu'on voit au cinéma. Mais à part de ça, entre le fantasme et la réalité, il y a un monde entre les deux. Jack l'Éventreur était probablement un individu qui était habillé en haillon, qui vivait dans le East London. T'sais. Crois-moi, si une prostituée du East London avait été approchée par un homme portant un manteau noir à houppelande avec un chapeau haute forme et un petit sac de médecin, elle ne lui aurait pas fait confiance pour se laisser entraîner derrière une maison close, tu comprends?
Oui.
Donc, il fallait que l'homme qu'elle rencontrait, c'était quelqu'un qui devait lui ressembler, quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un qui appartenait à la même communauté qu'elle, pour qu'elle lui fasse confiance au point de dire « Oui, je vais aller dans le petit coin noir, puis on va faire des trucs ensemble. » Fait que non, Thomas Neal Cream n'était pas Jack l'Éventreur. Sur ce, je vois qu'on a pété notre temps.
Ah oui, vraiment. Il va falloir faire moins long au retour de la pause. Je ne sais pas quel sujet tu préfères aborder au retour.
On va aborder la série Thomas Neal Cream. On a commencé avec la bande-annonce, finissant avec Thomas Neal Cream.
Bon, parfait, bougez pas.
Pas Thomas Neal Cream, mais avec Ed Gein.
Parfait, Ed Gein. Donc, bougez pas, vous êtes dans la Radio X-Files. On revient après ceci.
Radio X-Files. Execute
program. Avec Christian Page.
Radio X. Le retour de Radio X.
Deux fois quand je suis allé, le gars descend les 550 marches comme un chien, la tête en avant.
Tu l'as vu deux fois?
Deux fois.
Pas sérieux.
Oui, le gars, il est pipe, là, il est bras gros comme des poteaux de téléphone.
C'est sûr que c'est pas un poppy que t'as reçu dans le show, ça.
Ah, oh, ben c'est ça que je m'en ai dit. Le soir, il se met un masque.
Lui, je voudrais pas qu'il me dise.
Il mange dans le plat.
Le retour de Radio X.
Lundi au vendredi, 15h.
Radio X. Présenté par Donnacona Ford. Tu veux un F-150? Donnacona Ford. Tu veux du 0%? Donnacona Ford. Tu veux 2-3 000 piastres de plus pour ton échange? Où ça? Ben, chez Donnacona Ford. Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la méga liquidation automne-hiver. Profitez de 30 à 50% de rabais sur une grande sélection de vêtements et chaussures pour toute la famille. Détail en magasin. Sport Expert d'ici.
La course aux promotions, les cadeaux, les paiements pas clairs, c'est bon pour les autres. Mais quand on est classique de l'automobile à Québec, on n'en a pas besoin. Laurier Mazda offre tout simplement le CX-5 2025 avec 500 $ de rabais, location 48 mois, 108 $ par semaine, avant taxe, zéro comptant. Laissez les autres faire des fausses notes. Venez voir le classique de Québec. Laurier Mazda, à Sainte-Foy, ça cartonne!
C'est pas tout le monde qui se sent à maison dans une cuisine en réno, dans une salle de bain en construction, dans un salon en chantier. Mais nos entrepreneurs APCHQ, oui. Pour eux, un chantier, c'est la maison. Outils, formation, soutien, on est la référence. APCHQ, bâtir nous habite.
Maison Adam.
Profitez du long congé de l'Action de grâce pour renouveler votre divertissement à la maison avec les experts de Maison Adam. Rendez-vous au 710 rue Bouvier et bénéficiez de réductions allant jusqu'à 50% sur une vaste sélection de produits audio-vidéo. Maison Adam vous offre les meilleurs conseils, services et produits au meilleur prix garanti avec la livraison gratuite.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Ton employé t'écrit toujours 40 heures. T'es pas certain des heures que tes employés ont écrites. Tu vois des erreurs coûteuses se glisser dans les feuilles de temps? Passe à Mobile Punch pour sauver temps et argent. Dis adieu aux problèmes de feuilles de temps. MobilePunch.com.
Pour vendre au meilleur prix avec une stratégie efficace, une mise en marché professionnelle et une prise en charge du début à la fin, contactez Christian Dagenais, courtier immobilier via Capital à christiandagenais.com ou au 581-985-8900.
Le roi du camion est là, le F-150 2025 chez Levy Ford. 0% à l'achat jusqu'à 72 mois plus 1000 $ de rabais. C'est le moment de prendre le volant de la légende. Passe chez Levy Ford et Ford de Levy. Maintenant au 5307 rue Louis H. Lafontaine.
Toujours avec Windows 10, vous avez jusqu'à fin octobre pour passer à Windows 11. Changez avec PC en vrac. Des centaines d'ordinateurs avec Windows 11 neuf et remis à neuf. PC en vrac. Votre équipement informatique à prix imbattable à Sainte-Foy, Saint-Nicolas et Charlebourg.
Derrière chaque matelas que Matelas Dauphin fabrique, il y a une méthode, une précision, une qualité signée Dauphin. C'est avec fierté et passion que depuis 1970, on vous fabrique de belles nuits. Profitez de notre vente prix entrepôt sur nos matelas et obtenez 50% de rabais sur tous les formats de matelas silhouette ultra confortables, dont le double en spécial à 589 $. La vente prix entrepôt dans tous les matelas Dauphin. Une entreprise 100% québécoise.
iSalt, c'est plus qu'un centre de trampoline, c'est un monde d'aventure. La place pour bouger, rire et sauter. iSalt, c'est le fun exaltant et joyeux. Fêtez l'anniversaire de rêve de votre enfant avec nous. Détendez-vous et profitez. On s'occupe de tout. Visitez iSalt.ca.
sais, ça fait des années qu'on parle du troisième lien.
Pis, penses-tu qu'on va le voir un jour?
D'après moi, on risque de l'attendre encore longtemps. SG Énergie, eux, ils font pas attendre.
SG Énergie, du service, pas des promesses. Plus de 50 ans livrés mazout, carburant, lubrifiant et plus. 7 jours, 24 heures sur 24, pis toujours facile à joindre. CC08888. CC08888. En ce moment, épargnez jusqu'à 15% avec le code SG981. Certaines conditions s'appliquent.
Retrouvez le plaisir de sourire en toute confiance. Au Centre dentaire Cartier, anciennement Girard et Martineau, l'implantologie dentaire, on s'y connaît. Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une consultation sans frais et découvrir nos solutions sans greffe osseuse. Nous offrons également des soins dentaires complets, du nettoyage à la dentisterie esthétique pour toute la famille. Centre dentaire Cartier, c'est une équipe humaine et professionnelle qui saura être disponible et à l'écoute de vos besoins. Alcartier Québec.
Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à sous primées. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super!
C'est juste pour jouer.
Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer.
19 plus, jeu gratuit uniquement, jouer de façon responsable.
On écrase les prix chez Maxi avec des milliers de baisses de prix, dont les poitrines de poulet format club à 4,99 $ la livre, 11 $ le kilo. Et les raisins verts ou rouges sans pépins à 1,37 $ la livre, 3,02 $ le kilo. Pas de circulaire par la poste? Pas de problème. Plus de rabais en ligne et chez Maxi.
Tardy Métal engage. Assembleur, soudeur, journalier, opérateur de pont roulant, jour et soir. Salaire compétitif, gym, assurance, réair collectif, tout y est. Imaginez-vous chez nous. Postulez sur tardimetal.com ou envoyez votre CV à rh@sm-inc.com.
Dominant ou dominé? Magasinez au sensationplus.com et découvrez le plus grand choix de produits BDSM et fétiches disponibles en ligne. Livraison rapide et discrète. Sensationplus.com.
Radio X Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les radios X-Files. On perdra pas beaucoup de temps parce qu'on en a pris plus que prévu dans le premier bloc. Et je sais que tu voulais nous parler de la série sur Netflix qui est celle qui relate là, Ed Gein.
Voilà, donc Ed Gein.
Ouais.
Imagine-toi, c'est G-I-N, Gein.
Ben, parfait.
Ed Gein. Même si ça s'écrit G-E-I-N, c'est Ed Gein. Donc, Ed Gein est un... Bon, on le qualifie... Bon, c'est, comme je l'ai mentionné un peu en début d'émission, c'est le troisième volet de cette... une série qui s'appelle Monsters et qui a présenté dans un premier temps, en quelques épisodes, Jeffrey Dahmer, un tueur en série des années 90 aux États-Unis, mais principalement dans les années 90, début des années 90. Ensuite, les frères Menendez et maintenant Ed Gein. Bon, j'ai écouté la série sur Jeffrey Dahmer parce que ce sont des crimes qui m'intéressent dans la mesure où il y a une espèce de volet un peu occulte. Hein? Dahmer
essayait
percer des... On n'entrera pas dans le détail, mais bon, il espérait faire des zombies sexuels en perçant avec une perceuse, des trous dans le crâne de ses victimes. Il versait de l'acide pour faire des zombies sexuels. Je n'ai pas vu la série sur les frères Menendez parce que je n'ai aucun intérêt pour ce crime-là, mais pas du tout. Et bon, Ed Gein, évidemment, comme c'est un personnage plus grand que nature. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, il a influencé d'abord Robert Bloch dans son roman Psycho, paru en 1959, adapté en 1960 par Alfred Hitchcock, où on retrouve Anthony Perkins dans le rôle de Norman Bates, hein, qui garde sa mère squelettique dans la maison. Et ensuite, bon, Massacre à la tronçonneuse en 1974 de Toby Hooper et Le silence des agneaux, le Buffalo Bill, film de 1991 basé sur le roman de Thomas Harris. Donc, c'est un personnage plus grand que nature. On voit qu'il a inspiré là, un peu le cinéma d'horreur, voire fantastique. Et ce Ed Gein, ben, il a commis ses crimes. Bon, il vivait à Plainfield, au Missouri. Et ses crimes ont été commis quelque part, là, parce que ça reste difficile. Hein? Quand on qualifie Ed Gein de tueur en série, ben, je pense qu'on exagère un peu, parce que techniquement, Ed Gein, parce que selon la définition du tueur en série, selon le FBI, le tueur en série devient tueur en série après 3 victimes. Or, officiellement, Ed Gein n'a été reconnu coupable que de 2 meurtres. Quand je dis que 2 meurtres, on comprend, mais entre guillemets, là. Il a assassiné en 1954 une tenancière d'un bar et en 1957, il a assassiné la propriétaire d'un magasin général. Donc, c'est 2 victimes. On le suspecte d'en avoir peut-être tué d'autres, mais on n'a jamais pu démontrer ça. Donc, officiellement, Ed Gein n'a tué que 2 personnes. Ce qui caractérise Ed Gein, c'est qu'il allait dans les cimetières, déterrait des tombes, volait des morceaux de cadavres qu'il ramenait chez lui. Et là, ben, c'est tout un peu ce que l'on peut dans notre imaginaire, massacre à la tronçonneuse et compagnie. Il se faisait des vêtements avec la peau de ses victimes. Il s'était fait une espèce de corsage avec des seins de femmes. Il gardait dans une boîte des vulves humaines. Il se donnait également des actes de nécrophilie sur ses victimes. Contrairement à ce que l'on imagine, il ne gardait pas sa mère dans une chambre de la maison, comme on voit dans Psycho, là. D'ailleurs, quand les policiers sont allés chez lui lorsqu'ils l'ont arrêté en 1957, sa maison était dans un fouillis tout à fait indescriptible, sauf une pièce de la maison. C'est une maison à la sortie de Plainfield, qui était dans une espèce de région très rurale. La seule pièce qui était à l'ordre dans la maison, c'était la chambre de sa mère. Augusta Gein, qui était décédé là, quelques années plus tôt, là, qui était décédé, je crois, de mémoire, en 1948 ou 1949, là, dans ces alentours-là. Donc, la chambre de Mme Gein était... C'est vrai qu'il y avait une obsession là, pour sa mère, hein, comme on peut le voir dans Psycho, tout ça. C'est vraiment cette espèce de relation là, obsessionnelle. Donc, il avait gardé la chambre de sa mère à peu près intacte, qui était la seule chambre, la seule pièce à l'ordre. Il l'entretenait comme si sa mère était toujours vivante, même si elle était décédée depuis des années. Donc, évidemment, quand les policiers vont aller chez Gein, ils vont trouver là, tous ces restes humains. C'est vraiment un spectacle d'horreur. Ça dépasse l'entendement. Des masques faits avec des visages humains, une ceinture faite avec des mamelons de femmes. Tu peux t'imaginer tout. Le plus sordide que tu peux imaginer, Ed Gein l'a fait.
C'est assez macabre, oui.
Oui, oui. Ed Gein, d'ailleurs, à son procès, hein, bon, il est arrêté en 1957, il va avoir un procès, puis il est jugé, il est complètement fou. Hein. D'ailleurs, il avoue assez spontanément les crimes. Hein, quand on lui dit, oui, est-ce que tu as assassiné ces deux femmes, cette femme-là? Ah oui, oui, c'est moi qui l'ai fait. Il reconnaît ça, mais il est fou. Donc, pour lui, il n'a pas vraiment commis de gestes criminels. Là. Il comprend pas, d'ailleurs, que tout le monde lui reproche. Il est fou. Et d'ailleurs, il va être condamné. Bon, il va être jugé inapte à subir un procès. Il est envoyé dans un institut psychiatrique. Quelques années après, les médecins le jugent apte à subir un procès. Donc, on le juge. On le reconnaît coupable de ces fameux 2 meurtres, le meurtre de Mary Hogan en 1954 et celui de Bernice Worden en 1957. Mais une fois qu'il est reconnu coupable, on le juge inapte à avoir une peine de prison. Donc, on le renvoie à l'Institut psychiatrique où il va demeurer jusqu'à sa mort. Et là, on parle de sa mort en 1984. Donc, ça, c'est l'histoire de Ed Gein. Si tu me demandes ma position par rapport à la série, j'ai été excessivement déçu. C'est une série qui va dans tous les sens. On ne respecte pas les faits historiques. On introduit des personnages de fiction qui n'ont rien à voir. Et là, tu te dis, mais on s'en va où avec ça? À un moment donné, on voit Ed Gein qui tue des chasseurs avec une tronçonneuse. Jamais produit. Le but de ça, c'est simplement de faire un lien avec Massacre à la tronçonneuse. Tu comprends? C'est du grand, grand n'importe quoi, là. Et ce qui m'a... Et personnellement, le passage qui m'a le plus choqué, parce que non seulement, bon, à un moment donné, ça va dans tous les sens, même à un moment donné, il y a des épisodes où, dans la série, Ed Gein entretient une relation amoureuse avec une certaine Adeline Watkins. Je le dis tout de suite, ça n'a jamais eu lieu. Hein. Il y a effectivement dans l'histoire d'Ed Gein une certaine Adeline Watkins, mais leur fréquentation à la fin des années 40 ne durait que quelques mois, puis c'était surtout des échanges de lettres et aller manger une crème glacée au restaurant du coin. Ça s'est arrêté à ça. Dans le film, on voit cette Adeline Watkins qui est une espèce d'adolescente obsédée par le crime, les meurtres, puis qui accompagne Ed Gein dans ses massacres. Bon, là, on ratisse large. Mais ce qui m'a le plus déçu, non seulement c'est que cette série-là, j'aurais même plus tendance à qualifier ça de film, de série biographique, hein, parce qu'on n'est vraiment plus là-dedans. C'est vraiment de la fiction. La fiction sur une trame de fond à la Ed Gein. Mais ce qui m'a dérangé, c'est quand on va dans tous les sens de cette manière-là, à un moment donné, ce que l'on voit, c'est on va, par exemple, à un moment donné, on est parti, puis là, on va voir Alfred Hitchcock qui discute avec Robert Block comment ils vont adapter Psycho au cinéma, tout ça. Et là, tout d'un coup, pendant un long moment, un épisode pratiquement entier, là, si on additionne les minutes à l'écran, on s'introduit dans la vie de Anthony Perkins, qui a incarné justement Norman Bates dans le film Psycho. Et là, on entre dans sa vie privée. Anthony Perkins, et ça, moi personnellement, ça m'a dérangé parce que Anthony Perkins, qui était un ex, toute sa vie, il a vécu dans l'ombre d'un Norman Bates. Hein. C'est un peu comme le capitaine Kirk dans Star Trek, le William Shatner. Tiens, quand tu joues un rôle aussi marquant, tu n'arrives plus à t'en détacher. Hein. Tout le monde ne voit plus dans William Shatner que le capitaine Kirk. Et les gens ne voyaient plus en Anthony Perkins, qui était un grand acteur, ne voyaient plus que Norman Bates. Et Anthony Perkins, c'est un individu qui est un homosexuel dans les années 60. C'était difficile à vivre. Et Anthony Perkins a mal vécu cette homosexualité. Il a eu énormément de difficultés à accepter ça. Et quand on dit le gars dans le garde-robe, là, Anthony Perkins, c'était le gars dans le garde-robe. Et, quand on sait quel a été l'impact psychologique, c'était quelque chose qui a miné toute la vie d'Anthony Perkins, son homosexualité, qu'il voyait comme une véritable tare. D'aller dans ce détail-là, j'ai trouvé ça indécent. Je le dis honnêtement, là, d'aller dans la vie d'Anthony Perkins, puis là, on le voit là-dedans, aller voir sa psychologue, puis il dit, là, je vais essayer de me guérir de mon homosexualité, tout ça. Là, c'est du voyeurisme gratuit qui n'a rien à voir avec Ed Gein. On n'avait pas besoin de voir ça. On n'avait pas besoin d'aller dans la vie d'Anthony Perkins pour ça. On aurait dû se concentrer sur Ed Gein. Si tu veux faire une biographie sur Anthony Perkins et aller fouiller, déterrer, brasser de la merde, brasser des choses malsaines, libre à toi de le faire. Mais là, tu me fais une série sur Ed Gein et tu profites de ça pour faire du voyeurisme gratuit dans des éléments, des détails de la vie d'Anthony Perkins. Ça m'a particulièrement dérangé. Donc, bon, ceux qui ont vu cette série-là puis disent, bon, parfait, c'est une série magnifique, etc., ben, libre à eux. Mais moi, j'ai trouvé que la part de fiction était beaucoup trop importante. On allait dans tous les sens, on ne respectait pas les faits historiques et même à certains moments, on tombait dans une espèce de voyeurisme gratuit, particulièrement lorsqu'on abordait la vie d'Anthony Perkins. Voilà.
Ça donne quand même le goût d'aller jeter un œil à cette série.
Oui, ouais, pour le divertissement. Tu sais, pour le divertissement, si on veut le voir, pour le divertissement, bon, ça va. Mais faut dire aux auditeurs, aux téléspectateurs que, contrairement, j'ai pas vu la série des Menendez, mais quand je regardais la série de Jeffrey Dahmer, on respectait, on comprend toujours, là, on n'est pas dans un documentaire, on est dans un film qui veut divertir, une série qui veut divertir. Donc, on comprend que certains passages, certains dialogues sont romancés, certains événements ajoutés pour permettre un peu du divertissement. Mais on comprend qu'on reste quand même assez fidèle aux événements. Là, ici, on n'y est plus du tout. Là.
Non, c'est
plus ça du tout. Là, c'est du grand n'importe quoi. Là. Tu sais, là, tu dis, bon, ben.
Faut juste garder ça voilà. En tête. Ouais, voilà.
Ouais, c'est ça. Fait que, bon. Fait que voilà, ça, c'était pour Ed Gein. J'ai dit le Missouri tantôt, je pense que c'est le Wisconsin. En tout cas, il faudrait voir. Mais en tout cas, c'est un petit état. Mais la ville, c'était Plainfield. Ça, je me rappelle très okay. Bien. Là. Bon. Fait que, bon, voilà, c'était ma critique de Ed Gein. Puis. De cette série. Et je pense que les gens seront avertis si on décide de se scotcher à l'écran de Netflix pour regarder Ed Gein.
Ah, mais c'est,
voilà avertis.
C'est vendredi soir. Les journées raccourcissent beaucoup, donc il fait noir tôt. Je pense que là, en ce vendredi soir, les gens vont peut-être se dire « Tiens, je vais aller jeter un œil. C'est fort possible. »
Ben, tant mieux. Mais,
absolument.
Ici, dans beaucoup de fiction, peu de réalité.
Christian, ça a été encore une fois un immense privilège. J'espère que tu vas passer un excellent week-end de l'Action de grâce. Puis nous, on va se retrouver vendredi prochain.
Oui, vendredi prochain, on revient à notre première thématique, le phénomène des ovnis. Beaucoup d'actualité au cours des dernières semaines.
Assurément.
On en reparle.
Yes, bon week-end, Christian, à bientôt.
Toi aussi, bye. Ça marche, salut.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
C'est pas un problème, l'argent. Là.
Pierre Couture.
Ça roule.
Suivez les chroniques de Pierre Couture.
Ça roule.
À Radio X.
Radio
X.
La chronique de Pierre Couture, présentée par Norea Foyer Napère. Les poêles et foyers Osborne, fabriqués à Saint-Augustin, sont à rabais et vous économisez des milliers de dollars. Norea Foyer Napère à Sainte-Marie et à Québec.
Coach, la Ioniq 6 est encore sur la glace.
Avec la recharge rapide, il n'y a pas assez de temps entre les périodes pour l'arrêter. Puis en plus...
En plus quoi?
C'est l'événement le plus bel arrêt Hyundai. Tu peux la financer à partir de 0%, plus obtenir jusqu'à 11 000 $ de rabais additionnel de Hyundai et du gouvernement du Québec sur toutes les Ioniq 6 2025. Ou louer la version Preferred à longue portée à partir de 1,99% avec paiement hebdomadaire de 100 $.
Mais là, ils sont imbattables. On va faire quoi?
On y met du cœur. Ben du cœur. Let's go, les
gars! Conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails.
On écrase les prix chez Maxi avec des milliers de baisses de prix, dont les poitrines de poulet format club à 4,99 $ la livre, 11 $ le kilo. Et les raisins verts ou rouges sans pépins à 1,37 $ la livre, 3,02 $ le kilo. Pas de circulaire par la poste? Pas de problème. Plus de rabais en ligne et chez Maxi.
Béarnais, c'est une grande famille de plus de 200 passionnés qui, en prenant grand soin de votre véhicule, prennent d'abord soin de tous ceux qui montent à son bord. Parce que rouler en confiance et en sécurité, c'est juste parfait.
Du 1er octobre au 30 novembre, obtenez une remise postale allant jusqu'à 100 $ à l'achat de 4 pneus Yokohama sélectionnés. Les pneus Yokohama, un choix incontournable pour la sécurité et la durabilité. Détails et prises de rendez-vous sur desharnais.ca.
Desharnais, c'est juste parfait.
Retraite Québec présente le brin de sagesse de Leila.
Avec les enfants, l'hypothèque et toutes nos dépenses, je vivais pas mal au jour le jour et j'avais arrêté de mettre de l'argent de côté. Mais là, j'ai décidé de recommencer. J'ai trouvé un outil pas mal pratique, Simulaire. Ça m'a aidé à calculer combien je devais épargner pour ma retraite. Avoir un objectif, ça aide vraiment.
Pour récolter assez de blé à la retraite, il faut planifier et poser les bons gestes. Visitez notre site web pour essayer Simulaire. Un message de Retraite Québec.
Salut les enfants, quoi de neuf pour ce mois-ci?
Chez Lévy Chrysler, on a le Ram 2026 garantie 10 ans, 160 000 km à 0% sur 72 mois. On a vraiment confiance dans notre pick-up.
Chez Lévy Mazda, le CX-30 en location 48 mois à 93 $ par semaine, il est beau là, le CX-30, puis il est fiable à part de ça.
C'est bon, on y va avec ça. Et n'oubliez pas que c'est le temps de faire poser les pneus d'hiver. Il nous reste de la place.
Chez Auto-Québec, on s'occupe de vous.
Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la méga liquidation automne-hiver. Profitez de 30 à 50 % de rabais sur une grande sélection de vêtements et chaussures pour toute la famille. Détails en magasin. Sport Expert d'ici.
Davy, le plus grand chantier naval du Canada, recrute pour plus de 1000 postes. Peintre, assembleur mécanique, électricien, contremaître et plus. Avec un carnet de commandes rempli jusqu'en 2040 et des conditions de travail solides, ose le grandiose pour ta carrière. Postule à davyrecrute.ca.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Futura, Futura! Vous pensez rénover vos portes et fenêtres? Chez Futura, on vous simplifie la vie avec un service clé en main, de la prise de mesure jusqu'à l'installation.
Signez votre contrat dès maintenant et Futura gèlera ses prix, en plus de vous offrir 3 mois sans frais ni intérêt à partir de la date d'installation.
En plus, si vos nouvelles portes et fenêtres sont installées entre le 5 janvier et le 31 mars 2026, vous obtenez un rabais additionnel exclusif.
Futura, des portes et fenêtres solides et des économies garanties.
Contactez-nous dès maintenant sur futura.ca.
Qui veut retourner à la maison avec sa nouvelle voiture en disant « Chérie, regarde ma nouvelle pas pire auto. J'ai fait une pas pire affaire. » Personne. Ce que tout le monde veut, c'est faire un hit, avoir du succès. Option Subaru, on vend pas d'auto, on loue pas de voiture, non. On livre du succès. Ce mois-ci, c'est en offrant l'Impreza 2025 à partir de 99 $ par semaine en location. Pas de comptant. Répète après moi. J'ai du succès. J'en veux. Je le mérite.
Ta meilleure option, c'est Option Subaru.
Si tu trouves que les magasins meubles RD sont pas super beaux, ben dis-toi ben une chose. Si le meuble est beau chez nous, je te jure, man, il va être beau chez toi.
Jusqu'au lundi de l'Action de grâce, c'est la grande vente 20e anniversaire chez Meubles RD. Profitez de 20% de rabais sur tous les meubles et matelas à prix régulier. Meubles RD, bien se meubler, moins dépenser.
Drain Québec, c'est la référence en drainage à Québec et Lévis. Des problèmes de drains bouchés, des infiltrations d'eau, ne laissez pas les dégâts s'aggraver. Pour l'automne, on prolonge notre promo vedette nettoyage et inspection du drain de fondation à seulement 299 $. DrainQuébec.com.
Vu dans la circulaire Super C, le bœuf haché mi-maigre à 4,95 la livre ou 10,91 le kilo, les raisins verts rouges à 1,37 la livre ou 3,02 le kilo, puis la douzaine bleue sélection à 2,99. C'est super, super C. Valide jusqu'au 15 octobre. Détails au supercé.ca.
Cette semaine, écoute Couture dans le Mide. Tu pourrais gagner à chaque jour une boîte de pizza d'aliments Ludo d'une valeur de 60 $. Pendant le show, texte au 88-670-9098 le mot Ludo en nous disant c'est quoi ta sorte de pizza préférée. Ingrédients frais, pâte et sauce maison, Ludo, la pizza congelée au vrai goût de resto. Dispo chez les marchands participants et un prix très spécial au IGA ML. Ludo, décongelé, cuire, servir.
La Sexploratrice, présentée par Planet X. À la recherche de nouvelles sensations? Avec Planet X, explore et découvre tous les plaisirs. Planet X, 6 succursales et sur monplanetx.com.
Choix. 98.